C'est Romain et Sébastien en direct du studio de Radio G pour Imaginaire jusqu'à 22h. On aura une invitée ce soir au bout du fil.
Oui, Pauline Éluère, qui est l'une de nos invitées du Salon Imaginaire des 23 et 24 mai prochains.
Et donc, son actu ?
Alors, son actualité, ce sont les romans immersifs, dont le dernier en date, le second, Margot la sorcière, sans façon d'échapper au bûcher.
Après, moi, je vous parlerai de l'essai Génération Body Horror, signé Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferon, qui est sorti tout récemment chez ActuSF. Fleur sera sur le stand Imaginaire à l'Angers Geekfest dans quelques semaines. Donc, on parlera aussi de ça en fin d'émission. Puis toi, Sébastien, tu as de l'actu du prix du livre-jeu, annoncez ça.
Oui, après l'interview au téléphone de Pauline, je vous en parlerai succinctement des différents titres sélectionnés.
Super. Eh ben, en attendant qu'on ait Pauline au téléphone, on va s'écouter votre premier choix musical. On remonte en 1984. Allô. Allô.
Oui, allô.
Bonsoir, Pauline. Oui.
Bonsoir, Sébastien.
Ah, là, c'est Romain qui parle.
Oui, là, c'est Romain et là, c'est Sébastien.
Je connais pas bien les voix.
Ouais. On vient de passer ton premier choix musical.
J'ai un peu changé. En fait, tu nous avais prévu le générique de Charmed.
Oui.
Qui était chanté par Love Speak Love. C'était quoi, en 95, quelque chose comme ça. Ouais. Mm-hmm. Et donc, qui était une reprise de ce morceau des Smiths 10 ans avant. C'était pour, d'abord pour la BO d'un film qui s'appelait The Craft, je crois. Ça, The Draft. Ah, une histoire, un film avec des jeunes sorcières. Je crois qu'il y a Neve Campbell dans ce film. Quatre jeunes sorcières. Ouais, The Craft. Et les gens qui s'occupaient de faire la bande-son de ce film avaient demandé à Love Speed Love, donc ex-Psychedelic Furs, de reprendre ce morceau des Smiths. Apparemment, le groupe a été un peu, on va dire, reluctant au début. Finalement, en fait, je crois que le groupe a fait deux albums et ce titre, je pense que c'est le truc dont on se rappellera le plus. Dans la carrière de Love Speed Love. Et donc, il était sur la BO de The Craft. Et puis, deux ans plus tard, je pense, ils se disent, tiens, si on l'utilisait comme générique dans une autre histoire de jeunes femmes qui font de la sorcellerie.
Sorcellerie moderne. Je suis impressionnée par ces recherches que je n'avais pas du tout faites.
C'est un titre hypnotique.
Ouais.
Pauline, on est très content de t'avoir. J'ai rappelé que tu seras présente au Salon Imaginaire là très prochainement en mai. Peux-tu rapidement te présenter jusqu'à aujourd'hui, donc être autrice à Syros pour que nos auditeurs du 101.5 donc apprennent un peu à te connaître, ton parcours jusqu'ici.
Oui, avec plaisir. Alors, je suis écrivaine actuellement. J'ai écrit deux livres immersifs, donc dont vous êtes le héros pour Syros. Un qui s'intitule Les 100 vies de Pénélope, qui revisite le mythe de Pénélope, donc vraiment ancré dans l'Antiquité, la mythologie grecque. Et puis un autre qui s'appelle Margot, la sorcière sans façon d'échapper au bûcher, qui cette fois est vraiment ancré dans le 16e siècle. Alors avant, j'écrivais pas du tout. En fait, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 10 ans, donc j'ai fait ma carrière entre Genève et New York. Et puis, ça m'a toujours trotté dans la tête, en fait, d'écrire. Et j'ai finalement eu le déclic à un moment donné. Et actuellement, j'ai décidé de me plonger 100% dans l'écriture, livre immersif et non immersif. Et c'est tout nouveau pour moi, donc je serais super heureuse de venir à Angers. Ce sera seulement mon troisième salon et je suis très pressée de rencontrer les lecteurs.
Bah avec plaisir.
Alors moi, le mot livre immersif, c'est nouveau pour moi.
Bah, c'est l'objet d'une question.
Je m'en doutais.
Mais je vais démarrer par la première question. Pourquoi pour un premier livre édité, Les 100 vies de Pénélope, rédiger un roman interactif de 113 sections arborescentes? Alors je rappelle que c'est un des finalistes catégorie jeunesse au prix du livre-jeu 2025 et que ça reste un beau livre à l'instar de Margot la sorcière au prix de 14 € donc les deux. Donc moi je suis vraiment curieux de savoir pourquoi Pauline, tu as souhaité donc démarrer par un livre dont vous êtes le héros plutôt que par un roman classique.
Ouais, bonne question. Alors forcément, déjà, j'étais un petit peu nostalgique des livres dont vous êtes le héros, hein, que j'avais pu lire quand j'étais plus jeune, notamment les collections Gallimard, qui ont un petit peu donné le nom au genre. Mais surtout, à l'époque, je voulais vraiment terminer un projet de roman, ça me tenait à cœur. Et je commençais souvent des manuscrits que j'arrêtais en cours de route parce que je trouvais ça vraiment terriblement difficile de faire des choix en fait pour mon héros et de devoir m'y tenir jusqu'à la fin du livre. Et quelque part, opter pour un format arborescent, pour moi, ça a été une libération dans l'écriture parce que ça m'a permis d'aller un petit peu dans tous les sens et d'exploiter toutes les idées que j'avais et vraiment de mettre à profit toute mon imagination sans contrainte. Donc en fait, au final, ce format en arborescence, ça, c'était moins intimidant pour moi et l'écriture, c'était purement du plaisir. Donc c'est un format qui m'a bien convenu. Il m'a prouvé que je pouvais terminer un projet littéraire.
D'accord. Et comment ton éditeur Syros a-t-il décidé de le désigner sous l'appellation de roman immersif? On connaît le livre dont vous êtes le héros. Tu viens d'en parler justement avec Gallimard. On a le roman-jeu, le roman interactif. Le
jeu, ouais.
Mais par roman immersif, qu'est-ce que Syros, toi-même, voulait justement apporter donc, derrière cette définition?
Oui, j'aurais demandé récemment. C'est vrai que je ne m'étais pas forcément posé la question. J'imagine que déjà, il y a différentes marques déposées hein, de types de collection. Mais en l'occurrence, je crois qu'ils avaient hésité avec le nom immersion. Et au final, ils trouvaient ça peut-être un petit peu vague. Et ils ont opté quand même pour ce terme immersif parce que on parle de romans qui sont écrits à la deuxième personne du singulier. Le lecteur incarne vraiment le personnage. C'est tu fais ce choix, tu décides de tu. Et c'est vrai qu'on peut difficilement être davantage immergé dans une histoire que qu'à travers ce genre de roman. Donc immersion, ça s'y prêtait plutôt bien.
Et puis bon, moi qui lisais Jouquiné, entre autres, je pourrais dire que immersif, parce qu'on se sent vraiment dans les périodes de la mythologie grecque avec Pénélope, dans la Renaissance donc du XVIe siècle. On sent vraiment que ça a été vraiment très 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 bien documenté. Et je vais mentionner quand même des concours de nouvelles auxquels dans le passé tu as participé. Donc c'est beaucoup plus court pour arriver à la fin. Et en quoi cette expérience d'écriture, d'avoir donc fait des concours de nouvelles, rejaillit-elle dans tes œuvres actuelles, Les 100 vies de Pénélope et Margot la sorcière, sans façon d'échapper au bûcher?
Ah, je vois que vous avez bien mené votre enquête.
Ah ouais, on mène une enquête très poussée, imaginaire.
Ah, parce que vous connaissez les noms des nouvelles que j'avais écrites, parce que même moi, je ne m'en souviens pas.
Ah, pas jusque-là.
Ok. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que j'ai débuté mon expérience dans l'écriture. C'était en participant à des concours de nouvelles quand j'étais étudiante, notamment un concours du Crous Bretagne. Pour le cas, celle-là, je crois que j'avais intitulé Piscine de nouilles, mais j'ai jamais réussi à la retrouver. Et puis une autre pour des éditions bretonnes qui s'appelle les éditions Goater. Après, c'est vrai que à l'époque, je vais peut-être vous décevoir, mais j'avais quand même un petit intérêt pécunier parce qu'il y avait de l'argent en jeu et j'avais besoin de financer un petit voyage en Amérique du Sud. Et c'est vrai que c'était ma motivation pour voilà, participer notamment au concours du Crous Bretagne. J'avais participé au concours Nouvelles et BD. Et ça m'avait permis de financer mon voyage.
Ouais,
mais le plaisir de l'écriture est resté.
Il ne faut pas hésiter à concourir une fois au concours de nouvelles pour les anthologies d'imaginaire.
Hein. Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu?
Tu gagnes 2 exemplaires de l'anthologie.
Ok, ça me suffit.
On ne peut pas partir au Chili avec ça, je pense.
On peut partir à Nantes.
Voilà, à Nantes, peut-être.
En gênante, pour voir l'exposition
de la Loire. Au sud de la Loire. Oui.
Ah bah parfait.
On reste un peu... moi, ce que vraiment j'apprécie dans Margot la sorcière et par rapport à cette expérience donc d'avoir écrit des nouvelles, c'est que donc on a bien différentes destinées là pour l'héroïne Margot. Et ça va jusqu'à former tout plein de petits épisodes, mais avec des enjeux clairs et percutants. On a par exemple le sabbat de Woodstock, une sorte de congrès de sorcellerie, et avec une séquence romain qui est très drôle. De tirer de The Voice. Ça, j'ai vraiment adoré. Avec les trois sorcières qui se retournent ou pas pour valider des inventions par.
Un concours de talent de sorcellerie.
Par des sorcières apprenties comme Margot. On a également un autre épisode avec Barbeluc, le village de Pestiféré, enfin, etc., etc. En fait, on a 23 dénouements possibles, donc pas mal de possibilités de petites histoires. Et c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on a vraiment l'impression, et en plus c'est relié quand même, on a l'impression de plein de petites nouvelles, mais qui sont toutes reliées entre elles, et on en viendra beaucoup plus en avant, donc sur le fond de Margot la sorcière dans la deuxième partie de l'interview. Et là on va passer donc de Pénélope, qui est la femme d'Hélice, de la mythologie grecque, un personnage créé par Homère, à Margot de la Renaissance. Et moi, tout de suite, ce qui m'a fait tilt, Pauline, c'est qu'est-ce qui t'a plu d'imaginer par rapport à Pénélope, qui est un personnage donc fictif qui a été créé, les destins de ton propre personnage fictif, Margot?
Oui, alors c'est vrai que pour Pénélope, j'avais la contrainte de tout ce qu'on connaît hein, de l'Odyssée. Donc je voulais vraiment suivre la chronologie du retour d'Ulysse, dont on connaît très bien les aventures. On connaît aussi la famille de Pénélope, de son mari Ulysse à son fils Télémaque et puis sa cousine Hélène qui est partiellement responsable de la guerre de Troie et puis l'épisode de la tapisserie. Donc tout ça c'était des contraintes mais aussi des épisodes sur lesquels je pouvais rebondir tout en ayant beaucoup de liberté hein, parce que Pénélope quand même elle attend Ulysse pendant 20 ans donc j'avais vraiment la possibilité d'imaginer ce qu'elle aurait pu faire pendant tout ce temps-là. Et pour Margot par contre c'est vrai que le personnage est purement fictif, bon déjà c'est une vraie sorcière. En revanche, le personnage est ancré dans une époque très spécifique. On est en 1563. C'est vraiment fin 16e, le moment où commence véritablement la chasse aux sorcières, une époque de grandes épidémies, de grandes découvertes. Et puis, voilà, en même temps, règne Catherine de Médicis, Yvan le Terrible, Nostradamus est vivant, enfin, vraiment, c'est une époque vraiment intéressante. Donc, c'est important pour moi de m'ancrer dans cette époque. Après, c'est sûr que Margot étant fictive, j'ai pu lui inventer des objectifs propres, voilà, une famille, des ambitions, un passé, etc. Ma seule contrainte, quand même, c'était au final son nom. Alors, je ne sais pas si en lisant, voilà, en passant par certains chemins, vous êtes tombé sur la référence, mais je l'ai nommée Margot pour une raison très particulière.
Ah, moi, je ne suis pas arrivé encore à l'apprendre. Il y a pas mal de choses à apprendre, notamment, il y a aussi d'autres passés de personnages. Elle est accompagnée par un garçonnet, mais je ne suis pas tombé.
En l'occurrence, en fait, à un moment, elle rencontre le peintre Bruegel l'Ancien. Enfin, c'est un chemin vraiment spécifique, hein. Enfin, forcément, il faut avoir lu plusieurs fois le livre. Elle rencontre le peintre Bruegel l'Ancien qui a peint en 1563, donc c'est l'année que j'ai choisi, le tableau Margot la Folle, qui est une scène de sabbat avec une sorcière au milieu, avec une passoire sur la tête. Et donc, il l'a peint, et c'est ce qui inspire, en fait, voilà, le nom de Margot, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour le roman. Mais c'est un petit peu un Easter egg donc, qui est caché dans le roman, qui apporte une réponse à son prénom.
Ouais, bah comme on en a aussi pas mal dans des livres dont vous êtes le héros de chez Gallimard. Ouais. Et pour en revenir un peu sur Pénélope, moi j'aime beaucoup les incarnations humaines surprises de dieux et déesses qui peuvent modifier le cours des choses, et également les bonnes doses d'humour, et qu'on retrouve aussi dans Margot la sorcière. Donc... je voudrais quand même parler des magnifiques couvertures de tes deux romans immersifs qui ont été conçus par FX Pavillon. Et pour moi, ce qui m'a frappé d'entrée, c'est que les héroïnes, elles expriment beaucoup de choses par leur regard de face pour Pénélope et de profil pour Margot. Parle-nous en plus un peu de ce que ces personnages à jouer illustrés disent, on va dire, silencieusement aux lecteurs-joueurs. Est-ce que tu as même participer un petit peu à l'élaboration de ces personnages avec leur regard vraiment qui pour moi renvoie vraiment beaucoup beaucoup de choses.
Je sais qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur la couverture, et puis FX Pavillon, il fait des affiches de films et je trouve qu'on retrouve vraiment cette mise en valeur du personnage en fait, et cette invitation à l'aventure. Il semble que c'est sa femme qui fait les croquis, qui est artiste, et puis ensuite lui il utilise des outils digitaux pour leur faire prendre vie. Et c'est vrai que je pense que pour ce côté épique des livres dont vous êtes le héros, c'est parfait parce que leur expression invite à l'aventure, et elle lance vraiment au lecteur le défi de les incarner.
Et puis il y a un très bel habillage pour Margot, la
autour,
sorcière, tout en rouge.
Personnages.
Ouais, ça j'aime beaucoup. Oui. Et pour Pénélope, tout en jaune avec la frise. Alors là, on va faire un petit break. Donc on a.
Ah, moi j'avais quand même une question. Ça s'adresse à quel âge ? À partir de quel âge ?
Alors, c'est à partir de 13 ans, mais je pense que pour des grands lecteurs ou passionnés de mythologie, on peut commencer avant. Et puis, bien sûr, ça fonctionne aussi super bien pour des adultes qui sont adeptes de ce genre de format.
Oui, d'ailleurs, on avait hésité à le ranger dans la... Enfin, comme là, il est finaliste, Les 100 vies de Pénélope, à le mettre en sélection adulte ou en sélection jeunesse. Parce que ça peut vraiment plaire aux deux types de publics. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est pas simple. J'avais un tout petit peu édulcoré des passages pour que Pénélope puisse être lue à partir de 13 ans. J'ai fait des toutes petites adaptations qui, au final, fonctionnaient très bien.
Donc là, on a fait un petit tour d'horizon, on va dire, général de tes deux premiers romans immersifs, avant qu'on en vienne plus précisément sur le nouveau, Margot la sorcière. Mmh. Alors, je souhaite donc faire un premier break avec ton choix musical, Courcevel. Je survivrai. Et pourquoi donc ce titre ?
Pourquoi ce titre ? Pour vraiment se mettre dans l'ambiance du roman Margot la sorcière, même si techniquement en fin 16e c'est Renaissance et là c'est plus médiéval. Mais c'est pour plonger un petit peu le lecteur dans l'ambiance et la musique de cette époque, et donner encore plus envie de lire le roman.
Alors on s'écoute ça sur le 101.5 FM et on te dit à tout de suite.
Super, merci.
D'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifiée. Comment pourrais-je vivre encore sans vous à mes côtés? Depuis j'ai passé tant d'années à me dire que j'avais tort, à me blâmer. Et puis je me suis habituée, reviendrez-vous comme les loups qui regagnent nos contrées quand ils n'ont plus rien à chasser. J'ai changé toutes les serrures dont il vous restait les clés, c'est terminé. Jamais je ne vous ouvrirai hors de ma vue. Ne revenez plus, car désormais vous le savez, vous n'êtes plus la bienvenue. Votre adieu m'a piétiné et je me suis tant fourvoyé au plus jamais. Jamais je ne m'écraserai et je le sais, je survivrai tant que l'amour sera toujours la promesse d'un meilleur jour. Que brûle en moi le désir d'être le maître de mon avenir. Oui, je le sais, je survivrai. Sorcellerie, invoquer des dieux proscrits, mais c'est l'espoir qui m'a donné la victoire. Regardez-moi, je ne suis pas celui que vous aviez soumis à vos ivresses et vos envies. Vous n'êtes plus en terrain conquis, vous ne faites plus partie de ma vie. Depuis je me suis enhardi, je recherche un meilleur parti. Et je le sais, je survivrai. L'amour sera toujours la promesse d'un meilleur jour. Que brûle en moi le désir d'être le maître de mon avenir. Oui, je le sais, je survivrai.
Retour dans l'imaginaire sur le 101.5 avec Pauline Éluère et Courceval. Donc,
du bar de corps, c'est pas souvent qu'on en passe.
Ouais, et je pense que c'est pas souvent que des Français font ce style de musique.
Oui, alors c'est un groupe montant qui a dû démarrer en 2024 et qui avait fait déjà un concert au Bal du Château. Mais auquel,
c'était au Bal des Légendes, c'était en juillet dernier.
Ouais. Au Bal des Légendes. Alors là, on a la chance qu'ils fassent plusieurs scènes de château. Et entre autres, alors là, ça va être démentiel, les amis. C'est aux superbes fêtes médiévales normandes de Bayeux que vous pouvez retrouver Courceval le 4 juillet. Et je peux vous dire, tout leur répertoire, j'ai écouté d'une traite. C'est génialissime. Vraiment, il y a des instrumentales. Enfin bref, c'est un groupe que j'adore et vraiment, ils méritent le meilleur pour la suite.
Pauline, tu les as découverts comment ?
Alors, je les ai découverts dans le cadre d'un quiz, grâce à une amie, si Justine m'écoute, spéciale dédicace, donc un petit peu par hasard. Mais c'est vrai que c'est très, très chouette à écouter.
Voilà, et toi, c'est grâce à Pauline que j'ai découvert Courceval.
Moi, grâce au programmateur, programmatrice du château d'Angers.
Alors, pour faire écho au groupe donc Courceval, par deux fois dans mes runs donc, de Margot la sorcière, j'ai rencontré, donc sous les traits de l'héroïne, notre ex Nostradamus, auquel je survivrai, qui peut influer donc ce Nostradamus sur le jeu, par ses révélations, c'est selon. Un bon facteur ludique à mes yeux, comme il est un peu prophète, il peut nous donner un peu des informations qui peuvent nous aider. Je ne veux pas spoiler.
Faut mieux l'écouter quand même.
Voilà, c'est mieux. Mais détaille-nous donc, Pauline, sur ce qu'amènent là les romances interactives dans tes deux premiers romans immersifs.
Ouais, alors c'est vrai que dans les deux cas, la romance, c'est pas l'objectif premier. Quoique pour Pénélope, disons que c'est peut-être plus évident parce que forcément, on la connaît d'abord comme la femme d'Ulysse, donc elle peut décider de partir à sa recherche, le retrouver, mais bon, elle peut aussi finir reine des Amazones parmi des guerrières dégoûtées par la pilosité masculine. Elle peut aussi trouver d'autres amants parmi les dieux ou les mortels. Donc tout est possible. Et puis dans Margot, pareil, la romance n'est pas son objectif premier, mais peut s'inviter parce qu'il y a tellement de chemins possibles. Et comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a un facteur comique potentiel ou même parfois dramatique, hein, ça dépend des rencontres. Mais en ce qui concerne Nostradamus, quand je me suis rendu compte qu'il était vivant à cette époque, même s'il est plus âgé que Margot, je trouvais ça extraordinaire d'en faire son ex, parce que pour moi, c'est vraiment un personnage hilarant, vraiment vieux, crasseux, qui fait ses prophéties obscures et qui en même temps est passionné par les confitures. Donc c'était juste vraiment incroyable de pouvoir l'insérer de cette manière-là. Et puis c'est Margot peut décider de s'en détacher et d'éviter de le croiser, ou elle peut le retrouver. Elle peut aussi tomber amoureuse d'un très beau médecin de l'époque.
Je suis tombée sur cette fin. Laurent Joubert.
Charmant, qui fit des traités sur le rire. Donc oui, la romance, c'est sûr que comme tout est possible, sur la pyramide de Maslow, on explore un petit peu tous les besoins des personnages, et ça se prête très bien, je trouve, à ces romans.
Alors il y a un autre roman immersif là chez Cyrus, enfin, c'est une autre collection, c'est L'invasion de la planète barbare, et il s'y trouve... une feuille d'aventure, comme on a dans les livres dont vous êtes le héros, qu'on a évoqué rapidement. Et donc, ça permet, Romain, tu le sais, de pouvoir noter des choses. Voilà. Mais pourquoi dans tes romans immersifs à toi, Pauline, il n'y a pas de feuille de personnage ?
Alors, je dirais que je voulais que ça soit vraiment abordable, déjà. En revanche, j'ai intégré d'autres éléments de jeu, donc des objets ou des rencontres que le personnage peut faire, mais qui n'exigent pas de prendre des notes forcément à côté. Et c'est vrai que je voulais pas sortir le lecteur de sa lecture en ayant une fiche de jeu ou en compliquant trop, parce que c'est vrai que ça peut être intimidant pour certains. En revanche, je trouvais intéressant que le lecteur fasse des vrais choix, donc pas juste lui proposer d'ouvrir la porte A ou la porte B, mais qu'il ait l'impression qu'avoir fait certains choix avait des répercussions vraiment conséquentes sur les chapitres suivants. Et en l'occurrence, parfois trouver, choisir un objet ou faire une rencontre, a un impact plus tard. Et c'est aussi un moyen de forcer le lecteur à faire un petit effort de mémorisation, et donc qu'il se dise dans un coin de sa tête, j'ai fait telle action, il faut que je m'en souvienne, et puis peut-être que ça pourra m'être utile à un moment donné.
Oui, il y a différents contacts, effectivement, des objets. Et en plus, c'est rappelé en fait à la fin des sections, donc on a les choix, mais on a également dans une certaine police d'écriture un rappel justement de ça. Donc c'est pour vraiment dire, il y a quelque chose à noter, et c'est tout de suite, ça saute aux yeux en fait. Et rappelle-nous donc on parle de Margot, mais quel est son principal objectif avec sa potion ? Alors moi, je la qualifie, sa potion qu'elle a donc en poche, je la qualifie de vaccinale. Je trouve en fait que ce personnage, je l'aurais bien imaginé évoluer au 19e siècle, en fait. Je la trouve en avance sur son temps, et c'est vrai que davantage... que Pénélope, on sent que Margot, elle a le pouvoir de changer vraiment les choses. Mais peux-tu encore plus nous en parler justement de cet objectif qu'elle a avec sa potion vaccinale, qu'elle a-t-elle vraiment en vue de faire ?
C'est vrai que Margot, elle est vraiment visionnaire. Donc en fait, elle élabore une potion qui doit lui permettre de révéler la souche des maladies qui affectent son époque. Elle est notamment traumatisée par le décès de sa propre mère, aussi une sorcière qui s'appelle aussi Margot, comme toutes les femmes de sa famille, qui est morte de la peste noire. Et donc, elle n'a pas juste envie de panser les blessures, de soigner, de soulager les malades, mais vraiment de comprendre ce qui est à l'origine même de ces maladies. Donc forcément, nous, on le sait, les microbes et les bactéries, et son sortilège en fait doit permettre de faire grossir fois mille en fait les véritables coupables. Donc au tout début, elle rate son sortilège, mais si on parvient à atteindre le sabbat, normalement, voilà, on va pouvoir l'avoir, le mettre en œuvre. Et c'est vrai que c'était une époque de grande découverte, hein, aussi dans la médecine. Forcément, on n'était pas du tout autant en avance, mais comme Margot est une sorcière, avec c'est de la fiction, elle pouvait prendre ces quelques siècles d'avance sur Marie Curie, qui est, je pense, la scientifique à laquelle vous pensiez.
Oui. Et autre nouveauté par rapport aux 100 vies de Pénélope, Margot est accompagnée par un PNJ, personnage non-joueur des plus originaux, un garçonnet de 3 ans, prénommé oui. Woody, dont le lecteur-joueur en quête annexe aura à percer le mystère de ses origines. Et qu'est-ce qui te plaisait de faire vivre, Pauline, au lecteur-joueur, en mettant en scène un tel tandem, Margot et Woody, par rapport à leurs différences d'âge et tout?
Ouais, alors mon inspiration, clairement, c'est mon petit garçon qui a 3 ans aussi, qui pour le coup s'appelle Arthur. Et je trouve que c'est un âge vraiment rigolo parce que les enfants sont la voix adorable et insupportable. Ils racontent plein de choses, on comprend pas la moitié de ce qu'ils disent. Et donc ça peut entraîner tout un tas de situations cocasses que je vis au quotidien. Et en fait, je trouvais que c'était chouette aussi pour Margot d'avoir ce petit acolyte parce que elle est aussi moins seule du coup dans ses aventures. Parce que c'est vrai que dans un livre à choix, souvent, on se balade énormément. Et donc, ça faisait un petit peu quand même une constante, un personnage qui était toujours à ses côtés. Et aussi un mystère de plus, parce qu'on doit quand même essayer de comprendre d'où vient ce petit garçon qui nous a été imposé dès le début. Bah, il ne comprend pas très bien pourquoi et comment il est arrivé dans sa chaumière. Donc, ça rajoutait un élément voilà, comique et une quête supplémentaire. Après, forcément, c'était aussi un défi parce que quand l'histoire se termine pour Margot, il faut aussi trouver une fin pour le petit Woody. Et comme il a 3 ans, on ne peut pas être trop cruel. Donc, en général, j'étais assez sympathique avec lui.
Et même Margot, elle souhaite savoir qui était son père aussi. Donc, on a aussi pas mal de quêtes, effectivement, annexes. Alors, moi, je suis arrivé quand même, Romain, à la fin royale. Là, c'est Margot la sorcière fait 114 sections et je suis arrivé à la 113e. Pour moi, c'est la fin royale, donc je ne veux pas en dire plus. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a la 114e section, c'est la dernière en fait pour Margot, là, c'est un épilogue. Et pour le débloquer, bah, il faut en fait apprendre quelque chose dans toute l'histoire qu'on aura faite jusque-là. Et ça, j'aime bien. Et on rencontre énormément de figures historiques. Il y a aussi Nicolas Copernic, Jacques Cartier. On va dans le château de Rabelais. Tu nous as parlé là, de ce fameux peintre Bruegel, Nostradamus, des rois et des reines, Catherine de Médicis. Et à chaque fois, ces personnages, bah, ils vivent comme ça. Hop, on y croit. On est vraiment immergé dans la Renaissance, les amis. Et pour conclure, dans quelles autres périodes mythologiques et ou historiques souhaites-tu y faire se dérouler tes futurs romans immersifs chez Syros et pourquoi?
Alors, sans trop en révéler, quand même un petit peu, je travaille sur un troisième roman immersif qui se déroule en moins 25. Donc là, c'est sous le règne d'Auguste, donc Empire romain, le principal, et puis c'est aussi la fin vraiment de l'ère ptolémaïque en Égypte. Et donc là, on suit un personnage qui a réellement existé, qu'on ne connaît pas très bien. En revanche, ses parents sont très, très, très connus. Et ça se déroule entre Rome et Alexandrie. Donc voilà, peut-être que comme vous êtes fort en enquête, vous retrouverez qui c'est.
J'ai une petite question, moi. Est-ce que c'est toi qui as trouvé ce sous-titre-là, « Sans façon d'échapper au bûcher » C'est quand même assez punchy, je trouve, comme accroche.
Ouais, alors oui, je crois même que c'est un petit peu mon père qui m'a soufflé l'idée, et c'était une des propositions que j'avais faites à Syros. Donc, deuxième spéciale dédicace à mon papa, si m'écoute.
Ouais, là, pour nos auditeurs, j'ai souvent dit Margot la sorcière pour éviter de rallonger, mais le titre entier, c'est Margot la sorcière, sans façon d'échapper au bûcher. Et donc, les amis, vous pouvez retrouver Pauline à Imaginaire les 23 et 24 mai pour présenter les 100 vies de Pénélope qui, comme je le rappelle, est finaliste au prix du livre-jeu 2025. Pour un premier roman immersif, livre-jeu, c'est quand même très bien. Et le second, moi aussi, me passionne et ça parle de sorcières et vous pouvez même compléter un petit peu votre amour des sorcières, la sorcière bien-aimée Margot, référence à une série connue, Romain, en allant à l'exposition Sorcière au château de la Duchesse Anne sur Nantes jusqu'au mois de juin. Et Pauline, je vais te remercier donc encore d'avoir passé cet agréable temps téléphonique avec nous sur Radio G. Et je souhaite finir par un nouveau titre de Courcevel, comme autrefois, parce que ça me parle et voilà, c'est comme autrefois, mais je me rappellerai encore de cette autre fois qu'on a eue là ce soir, pour une autre fois au Salon Imaginaire. Bonne soirée.
Parfait, merci Romain et Sébastien. Au revoir.
Une
au revoir.
Reprise de Harry Styles. Au revoir yes. Pauline. À bientôt à Angers.
À bientôt.
Retenez-moi, ma terre le fait si bien déjà. Si vous vouliez prendre ma main, sans penser au lendemain. Les mots me manquent, depuis que nos âmes sont dissonantes. Je sais que nul ne remplacera ce que nous fûmes autrefois. Dans ce monde, vous et moi, de votre silhouette qui s'installe derrière mes paupières et me laisse un goût amer. Que Dieu me garde, personne n'entend mon cri d'alarme. J'ai besoin que votre présence souffle sur notre innocence. Dans ce monde, avant-demain, je ne puis guère plus parler de ce que l'on était. Loin de cette cité se trouve le chemin que vous emprunterez avec sérénité. Partez loin devant ce avant-demain. Je ne puis guère plus parler de ce que l'on était. Loin de cette cité se trouve le chemin. Nous ne serons plus comme autrefois. Partez loin devant ce avant-demain. Je ne puis guère plus parler de ce que l'on était.
Courcevel à nouveau dans Imaginaire sur le 101.5. J'ai reconnu l'abbaye d'Amby qu'on voit derrière eux dans ce clip, hein, de ce morceau, comme autrefois. Ouais, je pense qu'il faut être normand quand même pour connaître cet endroit, parce que c'est les ruines d'une abbaye, mais il n'y a pas de musée, de choses à visiter autour. Mais bon.
Ouais, ils font des très très beaux clips, retrouvez-les tous sur leur chaîne YouTube Courcevel, hein, donc c'est tout simple. Alors là, je vais vous faire rapidement un topo sur les finalistes au prix du livre-jeu. Alors, on a en sélection adulte 4 titres. La Cité des Brumes, chez les éditions de l'Apothéose. Alors Romain, tiens-toi bien. La Cité des Brumes, c'est un premier donc livre dont vous êtes le héros, d'un Canadien. Parce que le prix du livre-jeu aussi permet de faire découvrir des livres de toute la francophonie. Oui. Donc ça, j'apprécie. Alors c'est une enquête, et on a une autre enquête, mais historique cette fois-ci, une citadelle en enfer. Ça se déroule, je crois me rappeler, au XVIIe siècle, enfin du temps des mousquetaires. c'est un polar historique et chez 10-18. Donc un éditeur auquel on n'aurait pas pensé donc participer au prix du livre-jeu.
Mais ça doit marcher quand même, le livre-jeu, pour que d'autres éditeurs comme ça, historiques, on va dire.
Et là, on a vraiment des très 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 belles plumes donc qui s'y mettent. C'est un auteur qui est très reconnu d'ailleurs pour tous ses policiers historiques. On a l'histoire sans fin, donc par In Bad Dreams chez Scriptarium. Alors ça, c'est tiré du jeu de rôle connu Rêve de Dragon.
Ah oui, ok.
Voilà, avec des mécaniques particulières.
Il n'y a pas très longtemps,
Et c'est vraiment, on s'y sent bien, quoi. C'est onirique, on se sent, on voyage, mais vraiment tranquillement, quoi.
On jouait vraiment dans les rêves d'un dragon, hein.
Voilà, c'est ça. Et on a aussi le Voyage de la Pierre de Lune, donc parmi cette sélection de 4 titres. Là, c'est la réédition d'une très grosse qualité du premier tome du 4e cycle de Loup Solitaire, qui jusqu'ici, malheureusement, n'existait qu'en poche, avec pas beaucoup d'illustrations, dans des traductions vraiment coupées même par moments au sabre pour les derniers. Et là, on a décidé de revoir les choses en grand, grand format, avec de nouvelles illustrations même pour le Voyage de la Pierre de Lune. Donc, La Cité des Brumes, L'Histoire sans fin, Le Voyage de la Pierre de Lune, donc chez Gallimard, et Une Citadelle en Enfer. Alors, pour la sélection jeunesse, naturellement que nous retrouvons Les 100 vies de Pénélope, chez Cyros, donc par Pauline Éluère. On a, devine, Kimi Kimura et la Cata des Contes, que j'avais présenté en coup de cœur sur notre chaîne YouTube Imaginaire, de la fameuse H.Lenoir, que j'avais en interview, qui a remporté quand même 2 prix l'année dernière. Et là, il y a encore un nouveau livre à elle qui figure en tant que finaliste. C'est un peu quand même extraordinaire.
C'est un truc.
Le Grand Voyage des Petits Minuscules, un grand bel album illustré pour les petits, chez Amatera, un nouveau donc éditeur qui concourt au prix du livre-jeu. Donc on a toujours des nouveaux éditeurs qui viennent, et ça fait plaisir. Ça montre aussi que le prix a acquis une certaine notoriété. Et on a donc Voyage aussi au temps des dinosaures, Voyage au temps des dinosaures chez Flammarion Jeunesse. Là, on apprend beaucoup de choses sur les dinosaures.
Et on incarne qui, quoi ?
On incarne un petit personnage qui recherche son chat perdu dans les différentes aires où il y a eu les dinosaures, le Jurassique.
Voyage dans le temps, donc.
Voilà. Et Basket et Allegro chez Alconost de Lily Bagage, une belle plume aussi. Alors, je veux vous en parler pour l'émission spéciale qu'on aura à l'Angers Geek Fest de Basket et Allegro.
Oui, l'émission, on la fera en live là-bas.
Voilà.
Donc ce sera le dimanche 11 avril de midi à 13h.
Voilà pour la sélection adulte et la sélection jeunesse.
Eh bien, on peut faire la transition sur l'Angers Geek Fest, puisqu'on recevra sur le stand imaginaire Fleur Hopkins-Loferon, une des deux plumes qui ont travaillé sur cet essai Génération Body Horror qui vient juste de sortir chez ActuSF. Alors, ça fait 500 pages, donc format plutôt poche, mais c'est très très dense. Elles reprennent un peu les choses, on va dire, un petit peu chronologiques au début par le théâtre du Grand Guignol, on va dire une spécialité culturelle plutôt française du début du 20e siècle, qui était déjà du théâtre où il y avait vraiment des choses gore. Alors, il y avait aussi des organes, des fois, qui étaient exposés dans ces pièces de théâtre. Et puis après, on passe, on va dire, on arrive plutôt aux années 80, où la démocratisation des effets spéciaux dans le cinéma de genre, et notamment l'utilisation des plastiques, pour représenter les organes, les viscères, etc., et réaliser des effets de mutilation des corps, prendre l'ampleur. Et puis là, on a, on va dire, une explosion du cinéma d'horreur avec cette peut-être facilité des effets spéciaux, avec des choses qui restent assez marquantes. Je ne sais pas si tu as vu The Thing de John Carpenter, où il y a des effets complètement incroyables, de mutation des chairs, c'est aussi une époque où l'horreur est représentée de façon, on va dire, complètement irréaliste. On a des films vraiment gore qui arrivent, comme Street Trash, par exemple, où là, les fluides humains ne sont plus du tout réalistes. On a du vert, on a de la couleur et tout. Alors, c'est peut-être aussi une espèce d'effet un peu rétroactif de contrer la censure en fait, qui s'abat sur le cinéma d'horreur aussi au début des années 80. Et donc, on décide de représenter aussi surtout des fluides hein, corporels, mais alors de façon non réaliste. C'est plus du rouge et tout. Et puis après, alors plutôt que de faire un truc complètement chronologique, les deux autrices de l'essai découpent leur livre en chapitres, alors en sous-chapitres. Alors je vais vous donner les titres quand même. Donc on a déformé, fusionné, muté, s'animalisé, retourné à la terre, se mécaniser, suturé, jumelé, répliqué, s'encanailler, se faire ententaculer, j'aime bien ce mot-là, je pense que je vais ressortir souvent, baiser la mort, s'infecter, pourrir, supplicier, se mutiler, cannibaliser, imploser, se détruire pour embellir, s'hypertrophier. Et puis ça se termine par un grand chapitre sur le body politique aussi. Que le body horror, c'est notre relation au corps, donc c'est aussi, ça touche à des questions, alors déjà sur notre image, mais aussi sur notre rapport à la vieillesse, sur notre rapport à la mort, et puis sur notre rapport à la maladie aussi. Et puis, il y a aussi, on va dire, une tournure peut-être du film d'horreur ces dernières années, qui parle aussi plus de la société et de ses travers. Beaucoup de références, je dirais, majoritairement au cinéma d'horreur, mais aussi pas mal à la littérature d'horreur, avec pas mal d'œuvres francophones qui sont citées, mais aussi des œuvres anglo-saxonnes qui ne sont pas du tout traduites chez nous. Il y a des choses très pointues. J'ai l'impression qu'elles lisent beaucoup de nouvelles aussi dans des recueils anglo-saxons non parus chez nous. Bonne idée, on a donné aussi la parole à ces gens qui sont cités. Alors plus de la littérature d'horreur qu'on droit un petit paragraphe de temps en temps dans le livre où ils expliquent leur rapport au body horror. Et puis, il y a aussi quelques illustrations qui viennent apporter, on va dire, une petite bouffée d'air frais, je dirais, mais il y a quand même des images assez dégueulasses. Donc, voilà, un livre quand même pour les amateurs où on reprend aussi quelques scènes célèbres par quelques petits dessins. Voilà, 500 pages, 24,90 € chez ActuSF, avec une grosse bibliographie aussi à la fin où vous pourrez aller piocher... soit les films qui sont cités, soit des courts-métrages, soit des nouvelles, soit des recueils de nouvelles, soit des romans. Donc c'est vraiment la somme, on va dire, parue en français sur ce thème. Thème qui est quand même pas mal à la mode, et je pense qu'elles ont fait ce livre aussi, parce qu'il y a eu le carton au cinéma de Titane de Julia Ducournau, et puis The Substance de Coralie Farja, qui s'inscrivent un peu dans ce mouvement. Et donc, on aura la joie d'accueillir Fleur Hopkins à l'Angie-Guifet sur le stand Imaginaire. Et elle participera. Alors, une table ronde pour le moment, c'est sûr. Ce sera le samedi à 13h30 sur la scène littéraire « L'esthétique du corps dans la fantaisie et la romantaisie » où elle sera accompagnée de Céline Crégu et Roxane Dambre. Et ce sera modéré par Alan de Fantastinette. Tant que j'y suis, le même jour à 17h30, Imaginaire aussi modérera la fantaisie française à l'assaut des années 90 avec Sébastien Sellerin, donc plutôt éditeur de jeux de rôle, John Lang, Monsieur Noël Buck, et puis Bénédicte Coudière, qui est aussi une essayiste, notamment sur les littératures de genre. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver dans la programmation, qui seront réalisées par Imaginaire. Je ne peux pas trop en dire plus. Le dimanche, on aura une conférence dans la salle de conférence en haut. Que serait une bonne saga de fantasy sans une cité mémorable ? Donc ça s'inscrit dans le site de conférence d'Imaginaire en ce moment sur la cité, avec Sébastien Sellerin et Manon Tardy. Alors déjà, quand même rappeler que sur le stand Imaginaire, on retrouvera aussi Candice Roger, Botéropop et les éditions à la flamme, qui viennent de sortir leur dernier After London.
Oui, ça on va en parler donc prochainement à la radio.
Un post-apo écrit au début du XXe siècle, il me semble.
C'est bien aussi d'avoir Jean-Hugues aussi pour nous dire vraiment ce qu'il aime dans ce roman.
Ouais. Sinon, et ben plus globalement, il y aura trois grandes expos donc à ce grand raougeat que de l'année au Parc Expo. Une expo sur la fantasy, qui est le thème majoritaire cette année. Une expo sur le Goldorak, qui fête ses 50 ans apparemment. Et puis une expo sur Demon Slayer, on va dire, côté du festival manga animé oblige. Et puis, moi, j'ai noté aussi quand même deux conférences auxquelles je vais essayer d'aller. C'est Illustrer les cartes magiques, le samedi à 17h, par Camille Alquier et Joanne Baudin. Et puis, à 13h aussi, ce samedi, on aura aussi L'horreur venue du Japon. Ça, j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au festival Langy Geek Fest.
Les 11 et 12
Ah oui, c'est
11
avril, et 12 avril, voilà. Oui. Samedi, dimanche au Parc Expo, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h. Radio G aussi aura un stand où il y aura des émissions donc, qui seront réalisées et filmées. Ce sera sur YouTube en même temps. On avait quelques trucs à... On va terminer l'émission avec le groupe Body Horror, justement. Ouais, mais avant, quelques trucs à annoncer, Sébastien.
Il y a quand même quelque chose de superbe qui arrive sur Angers. Le 11 avril, les amis, gratuitement, il y a une soirée festive autour des tapisseries du Seigneur des Anneaux, enfin des tapisseries de Tolkien, parce que c'était un aquarelliste de base, et qui vont être exposées là où est exposé habituellement le Champ du Monde. Donc ces tapisseries qui viennent d'Aubusson,
donc, musée Jean Lurçat,
de Tolkien, au musée Jean Lurçat. Et il y a une soirée donc autour...
Alors, qui sera en fait entre les deux jours de Langy Geek Fest, voilà, ce sera un peu la soirée d'inauguration avec un... Il y aura un concert d'un orchestre symphonique local.
Ouais, et l'idée, c'est de pouvoir par la suite faire une émission spéciale Tolkien.
Et puis l'Angers Geek Fest s'inscrit vraiment dans cette thématique Tolkien. En salle de conférence, il y aura aussi beaucoup de confs sur Tolkien.
Il y a aussi pour demain, ceux qui veulent aller à la Cohue, il y a une
Lucas
surprise
Fox,
Romain.
Ouais. Premier batteur de Motorhead. Qui a écrit un livre où il raconte, alors pas que ses années Motorhead, mais aussi ce qu'il a fait avant, plutôt dans le Swinging London, et puis ce qu'il a fait après. Et voilà. Donc il tourne un peu partout avec ce bouquin. Donc à aller rencontrer.
En
si
dédicace demain de 16h à 19h à la Cohue, place de la Gare.
Et bien nous, on termine donc avec Body Horror, groupe. Post-punk anglais qui sera en concert jeudi prochain au Shabada en compagnie de Knives. Salut!
À la prochaine!
Goodbye. FM.